Solitudinaire, chapitre numéro 6. Le chemin de l'abomination et du funeste idiot. Sur le chemin du retour, Pied de Sang ne pipait mot. Elle n'avait pas aimé cette insistance qu'avait Solitudinaire à vouloir mourir. Il regardait le ciel, les yeux humides comme un fantôme. Il avançait sur les rails. Elle ne comprenait pas ce lien qui l'unissait à cet homme. Elle se souvenait de Trapas Trucifer qui lui avait brisé son cœur en 17 morceaux. Elle ne se souvenait plus de ce qu'elle en avait fait. Elle se souvenait du regard de Kolia quand il joua de sa lame et du rire de Vodka. Elle se souvint de la chair ensanglantée d'Escar, de sa langue coupée avant que Trucifer ne lui fasse cette armure. Elle se souvint de cet après-midi où la croque-mitaine lui avait parlé de ce lien et de cet homme. Elle se souvenait de la danse, de ce corps qu'elle adorait plier contre son gré, des applaudissements, de la lumière des festivals, de la souffrance de ses membres, ses joies et sa solitude à la fin, de la lame des rasoirs, du bain qui n'avait pas tenu ses promesses, des images sans aucun son, sans aucune logique. La croque-mitaine. Elle avait ri quand elle avait vu le visage d'Anouchka à l'annonce de ce nom. Solitudinaire remarqua qu'il était de nouveau en ville. Il se dirigea vers le pont d'Umbrello. Il s'attendait à voir le vieil homme dormir près de son carton. Mais ce qu'il vit le saisit d'effroi. Un homme était au-dessus du corps de Scarapinelli, un large couteau à la main. Il tenait le vieil homme par ses cheveux. Du sang noir sortait de la poitrine de l'ancien. Sans plus réfléchir, Solitudinaire fonça. Escar le suivit de près. L'assassin s'enfuit aussitôt. Solitudinaire s'arrêta une seconde devant le corps d'Umbrello. Il semblait encore dormir, si ce n'était ce trou au niveau du cœur. « Anouchka, occupe-toi de lui » lança-t-il avant de disparaître. Escar resta un quart de seconde en suspens, ne sachant que faire. Il regarda Solitudinaire partir et sa sœur qui s'agenouillait devant Umbrello. Pied de Sang lui fit signe de le poursuivre, ce qu'il fit. L'assassin courait vite, mais Solitudinaire se sentait des ailes. Il avait beau prendre des ruelles, de droite à gauche, passer par des cours et des allées, des escaliers. Irrémédiablement, Vox gagnait du terrain. Il tendit le bras, mais il était encore trop juste. Encore une cour, des escaliers, une allée étroite, et finalement Solitudinaire lança une jambe et l'assassin passa à travers une baie vitrée pour finir dans un canapé plein de poussière. Solitudinaire attrapa un bout de verre pour le menacer. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Bud. » Bud M. Knife Rezac, répondit l'homme en s'asseyant correctement. Je suis un assassin. Enfin, un tueur en série. Vous savez que personne ne peut mourir ici.
Ouais, mais c'est plus fort que moi.
Votre poison? Bud fit tournoyer sa lame. Solitudinaire remarqua qu'il était passé entre les mains de Kolia, l'orphelineur de doigts. Deux êtres du couteau. Il hocha positivement la tête.
« Pourquoi continuer alors ?» demanda Solitudinaire. « C'est plus fort que moi, vous dis-je. Déjà dans le temps, je ne pouvais pas m'en empêcher. Alors maintenant, vous aimez votre vie Vous aimez cela, hein, cette continuité des jours et surtout des nuits. Moi, non. Y a rien d'intéressant. J'avais commencé par libérer les ombres aux yeux rouges, mais c'est devenu vite lassant. Alors j'ai continué avec
mes clients.
« Ah, c'est vous le nouveau barman, hein. Vous allez enfin bien vous marrer en voyant celui d'Arcadie. »«
Mes clients ?»«
Oui, je me suis amusé à les réduire au vide quantique de leur existence. »« Mais ce n'était plus assez amusant. Ils n'ont plus peur de rien. Ils s'ennuient tout comme moi, jour après jour, nuit après nuit. »« C'en est pitoyable de poursuivre cette vie. Tu es pour rien. Ce n'est même plus drôle. » Alors j'ai commencé avec les derniers vivants. Et c'est meilleur, infiniment meilleur. Parce que vous... vous souffrez encore et que cela vous fait encore peur. Mais nous ne pouvons cependant pas mourir. Vous ne voudriez pas que je vous offre quelques heures de répit. avant que cela ne recommence. Depuis quelque temps, j'arrive à essayer de me tuer, mais ce n'est pas si facile, vous savez. Je me mets devant un miroir pour tenter de voler ce dernier regard avant de sombrer. Avant que Solitudinaire n'ait pu faire un geste, la lame du couteau de cuisine fit 3 tours et plongea dans le vide de sa poitrine. La peur ravagea tous ses sens. Ses yeux ne cessaient de voyager entre Bud et la lame. Le sang, une nouvelle fois pied de sang. Le terminal, Solenza, et maintenant cela. Cette ville adorait se nourrir de ce fleuve rubis. Cependant, plus les secondes passaient et plus la frayeur s'effaçait devant la surprise et même un certain humour. Un homme, un couteau planté dans le cœur. Enfin, du moins l'endroit où il devait se trouver un cœur, et qui s'interrogeait au fil des minutes quoi faire. Il sourit, et cela ne plut guère à Bud. Ce dernier fit tournoyer la lame, mais c'était comme si cette partie du corps était anesthésiée.
« Et donc » osa-t-il.
Naif Rezak eut un sourire malsain.
« Ah, ils ont toujours cette croyance de pouvoir échapper à Elisabetta !»
murmura Bud cynique. Elisabetta,
celle qui est en train de visiter en ce moment le vide de votre cœur.
C'est un joli nom, plaisanta Solitudinaire.
Ouais, c'est celle de mon épouse.
Il montra le vide qu'avait laissé Kolia. Solitudinaire eut un haut le cœur. Il comprenait que ceux qui avaient été victimes de l'orphelineur avaient eu dans l'autre monde un... Un quoi ? Il ne trouvait pas le mot alors que Bud l'avait prononcé si facilement et avec un certain respect. Il voulut demander à ce curieux personnage de répéter ce mot, mais quelque chose à l'intérieur de lui perdait le pied.
« C'est à ce moment-là, » dit Nafraza, « que tout bascule, Solitudinaire. Vous allez devoir me faire confiance. Qui sait si en vous réveillant, vous ne serez pas en plusieurs morceaux et que certains manquent. Anouchka serait-elle peinée si un détail vous manquait ? Arrêtez !» Non, 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 Solitudinaire, c'est mon plaisir, mon poison, que de vous voir mourir.
Solitudinaire attrapa Elisabetta, mais son propriétaire tenait bon. Vox tenta de s'éloigner et réussit à gagner quelques centimètres, mais ce n'était pas assez pour s'échapper de l'étreinte de la lame. Il se souvint qu'il avait en main un morceau de verre et le planta énergiquement dans la gorge de l'assassin. Celui-ci, étonné, lâcha la complice de son sinistre penchant. Solitudinaire eut du mal à se lever, mais d'un geste vigoureux, il retira Elisabetta de sa poitrine et la planta dans la jambe de son adversaire. Il aurait voulu viser plus haut, mais déjà la faiblesse commençait à le glacer. Il lui fallait fuir. Bud l'observa, la main sur Elisabetta. Ses yeux s'emplirent de larmes. Il voulut parler, mais le sang gargouillait dans sa gorge. Solitudinaire quitta la pièce en tenant sa blessure. Il n'avait pas mal, juste une envie irrésistible de dormir, de s'étendre sur la route et de ne plus penser à rien. Il tenta de courir, mais ne fit pas 50 pas. Il rechercha aux alentours un endroit pour se cacher. Il lui fallait faire vite. Il découvrit une longue ruelle qui glissait dans la noirceur. Il y plongea. Au bout de cette vertigineuse descente en fenêtre opaque, il découvrit un pont de bois. L'antiquité menait à une île. Quelques arbres damnés couraient autour d'une église en bois à moitié brûlée. L'âme brisée de Solitudinaire réclama un lieu de recueillement. Il pénétra dans l'édifice alors qu'une fine pluie de suie se mit à tomber. Il s'écroula. La migraine le réveilla. Il y avait un vide dans le vide. Il posa une main sur son cœur. La blessure était poisseuse, mais le sang ne coulait plus. Il y avait comme une vague lointaine qui se brisait sur un recueil dont il avait du mal à y mettre un nom. Il tenta de se lever, mais y parvint difficilement. Il sursauta en voyant une silhouette près de l'autel. Des dizaines de bougies le cernaient. Il était de dos, immobile.
« Vous !» Là-bas,
appela Solitudinaire. Mon Dieu, que sa voix était faible, mais l'homme se retourna. Il s'approcha doucement, paisiblement, comme un loup boiteux. Il était borgne, borgne et boiteux, d'une maigreur maladive, et cependant il souriait. Il avait dû être beau avant que la folie ne se dessine derrière son sourire.
Il poussa solitudinaire de sa longue canne noire jusqu'à plonger la pointe insérée dans le trou de son cœur. Du vide de son cœur, solitudinaire le regarda droit dans l'œil. Qui êtes-vous ? Murmura-t-il en tentant de s'échapper. Cela ne lui faisait pas mal, mais ce contact était trop étrange pour qu'il le laisse continuer.
Moi ? Répondit le borgne. Et vous ?
Solitudinaire. Moi, je suis l'abomination. Solitudinaire regretta d'avoir parlé. L'abomination était à deux doigts de pleurer. Il serra la mâchoire jusqu'à le faire craquer.
C'est comme ça qu'ils m'appellent. Les autres, dehors, de l'autre côté de ce pont en bois, ils me détestent. C'est cadavriel. Mon œil, il me l'a pris parce qu'il n'aime pas ce que je suis. Je suis exilé dans ce royaume des rats.
Solitudinaire sursautant voya la centaine de rats venir de l'ombre pour cerner les deux êtres humains. Il semblait vouloir le défendre de cet intrus.
Pourquoi ? Demanda Solitudinaire. Eux, ils savent ce que je vis. Dans l'ombre de cet autel, dans les ruines de ce sanctuaire, j'ai beaucoup marché jusqu'à cette porte. Je me suis nourri de leur sang et de leur chair, et ils me protègent. Les idiots, s'ils savaient ce que j'ai fait. En même temps, ils se sont nourris. Vous comprenez, ils ne m'aiment pas. Les autres, Arcadie et son molosse, Saul, Cadavriel, et même ce ridicule maître des poisons, Ereberov, tous des pourris qui ne méritent qu'un seul sort, la damnation. Et cela, je peux le leur offrir. Ne suis-je pas un homme de Dieu par défaut? Ne suis-je pas le maître de cette croix calcinée que cette retraite forcée m'a offert? Je suis le père de tous les miséreux de cette cité infâme. Je ne peux leur offrir une véritable apocalypse, mais viendra un temps où mes légions les dévoreront l'espace vide de leur cœur. Le son infâme de l'hérétique truciféré.
L'abomination resta suspendue en voyant le vide dans la main de son visiteur. Son regard devint extatique. Il eut un sourire diabolique. Il attrapa la main gauche de Solitudinaire et l'approcha de son visage et de son œil unique.
« Oui !» s'écria-t-il si fort que ses légions s'écartèrent une seconde avant de vite reprendre leur place. « Tu l'as rencontré, l'orphelineur. Moi, il n'a jamais voulu me couper les doigts alors que j'y ai droit !»
Pourquoi ?
Parce que je suis passé devant la croix du temps où elle ne s'habillait pas de charbon, et c'est pour cela que Kolia doit passer son couteau sur l'annulaire.
C'est si grave qu'il vous oublie ?
Bien sûr, pauvre fou, je dois le voir.
Vous le connaissez ?
Peu, répondit Solitude.
Je ne l'ai rencontré qu'en une seule circonstance.
Je dois le voir.
Son œil devint terrible. Les rats se mirent à s'agiter fiévreusement.
Vous avez tellement envie de vous faire couper un doigt ? Demanda Solitudinaire en se relevant.
Kolia, je veux juste Kolia.
Pourquoi ? S'inquiéta Solitudinaire. Un certain malaise s'installa. Le regard de l'abomination devenait plus que vicieux. Une saleté, il me le faut. Continua l'abomination.
Dans le temps, les gens m'appelaient Saligula Goodfellow. Le bon apôtre, le parchemineur des petites ruelles. Je connaissais la source des secrets de l'autre monde. Mais je ne suis pas seul. Il y a cet enfant qui veut Kolia.
Solitudinaire tenta de s'écarter, mais les rats faisaient une mer autour de ses pieds. Il savait ce que Soligula désirait. Il se tut. Il tenta de ne pas penser à Solenza.
« Oui, merci !» s'écria Saligula à bord de l'excitation. « Oui, un autre enfant. Merci, Solitudinaire. Une jolie petite fille. Comment s'appelle-t-elle ? Solenza ? Bien sûr, la fille du terminal. »
« Non !»
Solitudinaire poussa violemment Saligula, qui tomba dans une mer de rats. Ce contact résonna en lui, des visions qui s'agglutinaient sur sa raison, des enfants mangeant de la terre, pleurant des larmes de pierre, des bras qui devenaient de la poussière, des veines qui s'ouvraient sur des lames d'ongles, des tragédies qui n'avaient qu'une seule rime, Saligula. Des légions comme ces rats qui s'engloutissaient dans un abîme sans fond. Il remarqua alors que les yeux des petits rongeurs s'emplissaient de larmes. Ces animaux n'étaient pas des défenseurs, mais ses victimes. Il voyait un petit enfant en filigrane de barbelé, un petit squelette qui courait dans des royaumes sans fin de placards, dans des horizons interdits aux couronnes de saintes, qui cherchait derrière les parents en porte-manteau sa sœur Naphtaline, la briseuse de mythes, la diseuse des vérités, le goût du premier baiser, de la première caresse, des ivresses jouissives des 4 heures, jusqu'à la délivrance de l'étranglement paternel et des nuits de prostitution qu'offrait la misère du quartier. Saligula se couchait toujours sur le mausolée imaginaire de Naphtaline, haineux de ses maîtres qui le noyaient chaque matin et à la recherche dans chaque œil innocent les courbes condamnées des plaisirs incestueux. Mal à ne pas vomir devant tant de haine et de désirs avoués. Il se bascula vers le ciel anthracite et coura vers le pont qui sentait admirablement la liberté. Ses pas tentaient toujours de se briser et de s'allonger avec plaisir au milieu des cendres d'un passé, mais il continua. Il sentait la Légion le suivre. Sa vision se troublait, tombait en cascade, mais rien ne pouvait l'arrêter désormais. Il entendit un dernier « Golia » et disparut dans le vertige d'un virage.